Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, Laure Broulard qui m'aide chaque jour à préparer ses émissions. Aujourd'hui, Alexandre Cagzan qui est à la technique de l'heure du crime et à la une, parce que c'était il y a 30 ans et parce que un grand nombre d'auditeurs de l'heure du crime nous ont contactés sur RTL.fr pour nous demander de porter l'affaire Thierry Paulin à la une de l'émission. Nous allons donc revenir sur l'un des pires tueur en série, en tout cas, bon, c'est difficile de faire des hits parades de tous les temps, du 20e siècle, en tout cas des 30 dernières années, ça, on en est sûr, avec 21 victimes, ça a créé une véritable psychose pendant plusieurs années dans Paris, et puis même l'arrestation de Thierry Paulin, et on y viendra tout à l'heure avec mes invités, a créé une véritable polémique, parce que les enquêteurs se sont aperçus qu'ils auraient pu l'arrêter plus tôt, et que cela aurait peut-être épargné la vie d'une bonne dizaine de victimes. Alors pour en parler, mes invités sont parmi ceux qui connaissent vraiment le mieux ce dossier. La journaliste Agnès Grossmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires pour la télévision. Oui. Vous avez travaillé très souvent et vous continuez à travailler très souvent pour faire entrer l'accusé. Et vous avez publié un livre qui vient de reparaître d'ailleurs en livre de poche tout récemment, L'enfance des criminels. Où évidemment vous ne pouviez pas passer à côté de ce personnage.
Hein. Non, parce que Thierry Paulin, il a une enfance catastrophique, comme très souvent les tueurs en série.
Voilà. Et l'enfance de Thierry Paulin et tout son parcours de vie avait été passé au crible par Serge Bornstein. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour docteur, puisque vous êtes neuropsychiatre, expert national honoraire. Vous avez donc expertisé Thierry Paulin en prison.
En maison d'arrêt, oui.
En maison absolument. D'arrêt, voilà.
Oui.
Enfin,
oui, en prison et à Fleury-Mérogis, avec mon camarade Laure Maud, malheureusement disparu. Et nous avions tout prédit, en quelque sorte, cette fin tragique qui va ponctuer un parcours épouvantable.
Voilà, puisque, rappelons-le, donc, Thierry Paulin est effectivement mort en prison avant son procès. Puis le procès a eu lieu en 91. Et ma troisième invitée est maître Michel Arnold. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir. Vous n'étiez pas l'avocat de Thierry Paulin. Enfin, vous étiez de permanence, comme on dit, ce jour-là.
Exactement. J'étais secrétaire à la conférence.
Ouais,
Jour de l'arrestation. Mmh. Et donc, le juge d'instruction, M. Janin, m'appelle à ce moment-là, me dit, voilà, on vient de les arrêter. Et lequel voulez-vous ? Il était persuadé que j'allais choisir Thierry Paulin. Oui. Parce que, déjà, le personnage avait fait beaucoup parler de lui. Oui. Cet aspect un petit peu sulfureux. Et je lui ai dit, écoutez, j'aimerais lire les premières déclarations des deux. Ouais. Auprès
le deuxième étant Jean-Thierry Mathurin, dénoncé
par Thierry Paulin.
Par Thierry Paulin, on reviendra au cours de sa garde à vue.
Voilà, exactement. Ouais. Et j'ai été frappée par une phrase de Jean-Thierry Mathurin qui m'a marquée. Phrase où il dit très clairement, j'ai conscience que ce que j'ai fait n'est pas humain et que je dois payer pour cela. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit au juge d'instruction, c'est celui-là que je veux défendre.
Alors, donc, évidemment, vous avez eu accès à tout le dossier,
oui.
Même si Thierry Paulin n'était pas au procès, il était là, quelque part, quand même.
Oui.
Hein, bon.
Oui.
Alors, on va reparler de tout ça ensemble tout à l'heure, s'attacher à la personnalité, aux questions que pose ce genre de personnalité hors norme. Mais tout d'abord, je pense toujours... Ah oui, puis vous dire aussi qu'on va avoir Philippe Bilger au téléphone, qui était l'avocat général du procès,
où vous étiez. Absolument.
Évidemment, avec le recul du temps, certainement des choses très intéressantes à nous dire, puisque c'est lui qui a requis la perpétuité pour votre client.
Absolument.
Et alors, je disais donc, moi je pense toujours à ceux qui découvrent quand même, parce que tout le monde a entendu parler de Thierry Paulin, mais qui se souvient vraiment de ce qui s'est passé. On va essayer de se rappeler tout cela ensemble. La première vague de meurtres qui allait provoquer l'indignation de l'opinion et une mobilisation policière sans précédent s'est déroulée dans le cadre du 18e arrondissement de Paris. Montmartre, la Goutte d'Or, Clichy, Barbès, la place du Tertre, la Butte, un des quartiers les plus contrastés de la capitale, au rendez-vous des touristes, des noctambules, des artistes, mais aussi le sanctuaire des dealers, des prostituées et des trafiquants en tout genre. Le 5 octobre 1984, une vieille dame de 91 ans, Germaine Petitot, est agressée chez elle par deux hommes dans son petit appartement modeste de la rue Lepic, au bas de la butte Montmartre. Elle est retrouvée ligotée, bâillonnée, battue, avant d'être délestée de ses économies. Elle est vivante, elle est très choquée bien sûr, et cette vieille femme ne peut pas donner de description de ses agresseurs, mais sa déposition au commissariat du quartier viendra s'ajouter à un dossier déjà volumineux qui concerne des attaques de personnes âgées dans le 18e. Et ce meurtre manqué marque le début d'une longue série, mais ce jour-là bien sûr, personne ne pouvait le savoir. Le même jour, dans le 9e arrondissement, tout proche, rue Saunier, on découvre le cadavre d'une femme de 83 ans, Anna Barbier-Pontus, qui vit seule dans son petit appartement. Elle a été, elle aussi, battue, ligotée, étouffée avec un oreiller. On lui a volé une somme dérisoire, 2 à 300 francs de l'époque, l'équivalent aujourd'hui de 45 euros. 4 jours plus tard, le 9 octobre, les pompiers sont appelés pour un début d'incendie dans le 18e arrondissement. À nouveau, ils découvrent là le corps d'une vieille dame de 89 ans, pieds et mains liés, étouffée par un sac plastique qui lui recouvre la tête. On lui a volé 500 francs en argent liquide et une montre sans aucune valeur. Pendant près d'un mois, la série semble s'interrompre. Mais le lundi 5 novembre, on découvre, dans un petit appartement du boulevard de Clichy, cette fois, le corps d'une institutrice de 71 ans. Elle a été battue à mort, elle est bâillonnée, elle a été ligotée avec du fil électrique, l'appartement a été saccagé. Yona Secaresco, c'est son nom, a été tuée avec une sauvagerie inouïe, nez et mâchoire fracturées, côte enfoncée, étranglée avec un foulard. La vieille dame avait été suivie pendant qu'elle faisait ses courses vers 12h30. Le butin, cette fois, est évalué à 1500 euros d'aujourd'hui en bons du trésor que la vieille dame gardait chez elle. 2 jours plus tard, le 7 novembre, toujours dans le 18e, une quatrième victime est découverte par son fils qui venait chaque jour déjeuner avec elle, Alice Benaïm. Elle avait 84 ans, rouée de coups, torturée avec un sadisme rare. On l'avait, entre autres, forcée à boire de la soude caustique pour lui faire avouer où elle cachait ses économies, butin, moins de 80 euros. Cette fois, un voisin prévient la presse et la presse commence à parler de la série noire du 18e. Le lendemain, à 20 mètres à peine de la rue où habitait Alice Benaïm, une infirmière qui venait prodiguer des soins à domicile chez une patiente de 80 ans, Marie Choix, découvre le cadavre de celle-ci, encore une fois étranglée, bâillonnée, la boîte crânienne enfoncée. On lui a volé 45 euros. Le jour suivant, 9 novembre, c'est le tour de Maria Mico Diaz, 75 ans, 6e meurtre. Le 12 novembre, 2 autres corps sont découverts dans la même journée, un dans le 17e, un dans le 18e, Jeanne Laurent, 82 ans, et Paul Victor, 77 ans. En un mois, 8 personnes âgées, toutes des femmes vivant seules, ont été assassinées. Le gouvernement commence à s'émouvoir. Des centaines de policiers et de CRS quadrillent le quartier. Les journaux s'interrogent. Quand va-t-on arrêter celui qu'on appelle maintenant le tueur des vieilles dames? Un an s'écoule, sans aucun meurtre. Et les policiers du 36 quai des Orfèvres sont toujours dans l'impasse. Ils n'ont aucune piste sérieuse à suivre. Pas de description du ou des meurtriers, quelques traces partielles d'empreintes digitales difficilement exploitables, pas de confidence de leurs indicateurs, rien. C'est, comme dit l'un d'eux, la bouteille à l'encre. Et puis, le 20 décembre, la série reprend dans le 14e cette fois, avec la découverte du corps d'une vieille dame de 91 ans, Estelle Donjou, étranglée chez elle moins de 15 jours plus tard dans le même quartier. C'est André Ladan, 77 ans, qui va subir le même sort. Et 5 jours plus tard, le 9 janvier 1986, Yvonne Couronne, 83 ans, est assassinée à son domicile, rue Sarrette. Les trois derniers crimes ont eu lieu dans un rayon de 400 mètres autour de l'église d'Alésia. Chaque fois, c'est le même scénario. L'enquête prouve que les victimes ont été suivies, qu'elles ont été poussées chez elles au moment où elles ouvraient leur porte d'appartement pour être finalement étouffées ou étranglées. Le rapprochement avec la série du 18e semble évident, même si cette fois, la composante sadique des premiers crimes semble avoir totalement disparu. Plus de coups sauvages, pas de torture. Mais les policiers pensent qu'ils ont affaire au même tueur. La liste des crimes n'est malheureusement pas close. Quatre noms vont encore s'ajouter à cette terrible série. Du 12 au 15 janvier 1986. Fin janvier, le travail de fourmi des policiers et les expertises scientifiques des scènes de crime vont enfin porter leurs fruits. Les enquêteurs ont fini par comparer et identifier toutes les séries d'empreintes digitales à leur disposition. Et ils savent désormais que le même homme a participé au moins à trois des agressions mortelles de 1984, une en 85 et deux en 1986. Le 31 janvier, nouveau meurtre, Virginie Labrette, 76 ans, dans le 12e. 14 juin, retour au 14e arrondissement avec la mort d'une veuve de nationalité américaine, Ludmila Lieberman. Elle est la 16e victime. Pendant plus d'un an, il n'y aura plus de nouvelles victimes. La série s'arrête à nouveau. Aucun meurtre de vieille dame n'est signalé. Mais la série noire reprend brutalement le 25 novembre 1987 avec le meurtre de Rachel Cohen, 79 ans. Le même jour, dans le 10e, une autre vieille dame de 87 ans, Madame Finalteri, sera laissée pour morte sous un matelas. Mais par miracle, elle survit à son agression. Et grâce à son témoignage très précis, les enquêteurs disposent désormais d'une description de l'agresseur. Ils peuvent enfin réaliser un portrait robot du tueur des vieilles dames, 1m80, métisse, les cheveux décolorés, un diamant à l'oreille. Le portrait est immédiatement diffusé dans tous les commissariats parisiens. Cela n'empêchera pas, malheureusement, le tueur de faire encore une nouvelle et dernière victime, le 27 novembre 1987, donc, 22 rue Caille, dans le 10e, Geneviève Germont, 73 ans, elle a été étouffée puis étranglée, toujours selon le même scénario. Mais désormais, le filet se resserre autour de l'assassin. Les policiers savent que tôt ou tard, ils vont pouvoir l'arrêter. Et le mardi 1er décembre 1987, à Paris, la tragique série d'assassinats de vieilles dames va enfin s'arrêter définitivement grâce à l'intervention du hasard, mais aussi de la perspicacité d'un policier. L'arrestation de Thierry Paulin va avoir lieu à quelques dizaines de mètres du commissariat de police de la Porte-Saint-Denis, dans le 10e arrondissement. Le commissaire Jacob discute dans la rue avec quelques commerçants du quartier. Dans sa poche, il a le portrait robot du tueur. La suite, le commissaire Jacob l'avait raconté le lendemain 2 décembre 1987 sur RTL.
Je sortais de mon commissariat et j'ai rencontré des commerçants du quartier avec lesquels j'ai conversé durant quelques minutes. Alors que j'étais en train de converser avec eux, j'ai vu arriver un individu correspondant en tout point au signalement diffusé par la brigade criminelle et la brigade de répression du banditisme comme étant l'auteur possible d'agressions à l'encontre de personnes âgées, certaines s'étant terminées par des homicides ou des meurtres. J'ai donc invité cette personne, tout en lui présentant ma carte d'identité, ma carte professionnelle, et en lui faisant état de ma qualité, à me présenter une pièce d'identité. Sur cette pièce d'identité, une photo avec une coiffure à la Carl Lewis, coiffure étant déjà apparue sur certaines agressions. J'ai ensuite invité ce monsieur à m'accompagner au commissariat, ce qu'il a fait sans aucune difficulté.
On reviendra sur ce témoignage tout à l'heure avec mes invités parce qu'il y a une raison pour laquelle Thierry Paulin n'a pas essayé de s'enfuir le jour où il a été interpellé. Il faut dire qu'ensuite, à la brigade criminelle, il a été confondu à 100%, on va dire, grâce à ses empreintes, grâce ou à cause de ses empreintes digitales. Une pause et puis ensuite, on retrouve mes invités. On va parler de la personnalité de ce tueur et de cette histoire hors norme.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Évidemment, la question que tout le monde se pose, comment un jeune homme en apparence charmant a pu basculer ainsi dans l'horreur, Agnès Grossman, c'est la question à laquelle vous avez voulu répondre dans votre livre.
Oui.
Tout le monde le trouvait sympathique.
Tout le monde le trouvait extrêmement sympathique et séduisant, et a commencé par Serge Brandstein, je crois.
Oui, ça on va en parler avec lui dans un instant.
Il a trouvé absolument fascinant quand il l'a vu la première fois.
Oui, mais on va faire notre séquence psychiatre dans un petit instant.
Mais malheureusement pour lui, dès le départ, il n'a pas eu cet amour des autres, parce qu'en fait, c'est un enfant qui est né pas désiré, de parents très très jeunes. Et sa mère l'a assez vite confié à sa grand-mère paternelle, tandis que son père allait s'installer en France. Et la grand-mère paternelle ne s'est pas occupée de lui. Elle avait un restaurant sur une plage de la Martinique, qui était à ses côtés. Elle n'était pas mauvaise femme, elle ne s'occupait pas de lui. Donc c'est un enfant qui a été vraiment abandonné et pas investi. Et il s'est senti très seul et mal aimé, ce qui était absolument le cas. Après, il a été récupéré par sa mère, mais il avait déjà une dizaine d'années. Elle avait refait une famille et il s'est senti comme un intrus dans cette famille. Il n'était pas traité comme les autres enfants. Il a été malheureux aussi. Et finalement, quand sa mère a demandé au père qui était en France de l'aide, le père a dit, plutôt que de te donner de l'argent, je préfère encore le récupérer. Donc la mère l'a amené à l'aéroport, ravie de se débarrasser de lui, et le beau-père encore plus. Et il lui a dit, en partant, j'espère qu'on se reverra. Et chez son père, nouvelle famille, lui aussi avait refait sa vie, il a encore été mal accepté. Mmh. Et ça faisait beaucoup. Et puis finalement, un jour, il en a eu ras-le-bol, et à 14 ans, il est parti, il a fugué. Et son père n'a même pas signalé sa disparition. C'est pour vous dire comment on tenait à lui.
Il connaissait Jean-Thierry Mathurin depuis longtemps ?
Écoutez, non, parce qu'en fait, entre le moment où il tue et le moment où il meurt, je crois qu'il s'écoule 4 ans.
Et donc en fait, il ne connaissait pas Mathurin.
Non, il a rencontré Mathurin quand il avait une vingtaine d'années au Paradis Latin. Voilà. C'est deux enfants de la nuit. Et Mathurin, c'est ça qui est étonnant aussi. C'est que Mathurin aussi est quelqu'un qui a eu une enfance très difficile et malheureuse.
Ça, on va en parler avec Maître Arnold dans un petit instant. Encore un mot, Agnès Grossman. Vous dites aussi dans votre livre, vous revenez. Bon, il a. Alors évidemment, que les choses soient bien claires, vous dites pas, personne ne dit ça pour l'excuser, mais pour essayer de comprendre. Quoi.
Bien sûr.
Il est homosexuel également.
Il est homosexuel.
Ça va être très dur à porter pour lui, notamment au moment du service militaire, je crois.
Oui, même avant, dans sa famille, son père ne l'acceptait pas. Mmh. Et au service militaire, il se retrouve noir, homosexuel. Il est très mal vu, très très mal vu. Et ça a été difficile. Et c'est vrai que dans le milieu de la nuit, il s'est finalement fait accepter. Il a trouvé l'acceptation pour tout ce qu'il était.
Alors, on aura des témoignages tout à l'heure dans l'émission de gens qui l'ont fréquenté dans le cadre de ce milieu de la nuit. Mais là, tout de suite, je voudrais qu'on entende un document RTL. Faut prêter l'oreille, parce que le son n'est pas forcément idéal. Il s'agit de la réaction de la mère de Thierry Paulin quand elle apprend ce qu'il a fait. Et nous sommes en fait le 6 décembre 87, lorsque Jean-Benoît Vion et Philippe Robuchon recueillent pour RTL ce témoignage.
J'ai eu Thierry très jeune, j'avais 17 ans, et mes parents ne voulaient plus de moi parce que je ne les écoutais pas, ils ne voulaient pas du père de Thierry. Et quand j'ai accouché, le père de Thierry n'a fait que le reconnaître et est parti. Et quand je lui ai demandé du secours, il a refusé. J'étais abandonnée partout, il fallait que je cherche du travail et tout. C'est de là que j'ai rencontré mon nouveau mari.
Comment il était Thierry avec vous? Il était affectueux?
Il a toujours été affectueux, gentil, très serviable, il me faisait tout. Jusqu'à présent, s'il venait nous voir, c'est parce qu'il ne pouvait pas donner qu'il a réagi ainsi. Il sentait qu'à chaque fois qu'il venait nous voir, on avait besoin de quelque chose, il ne pouvait pas nous donner. Et nous, on ne peut pas lui donner, mais il ne voyait pas qu'on l'aimait. Nous allons tous nous accrocher pour le faire savoir qu'on l'aime. Quand j'ai entendu le nom de Thierry, j'ai été terrifiée. Et je me suis accrochée parce que je suis croyante et je sais que c'est le sang de Dieu qui me relèvera. J'ai pas cru. Et je ne crois pas non plus tout ce qu'on ajoute sur Thierry. Il a peut-être commis des fautes, mais pas autant. Et s'il m'écoute, je lui dis de se raccrocher, comme dit le film Accroche-toi, Peter. Thierry, ne crois pas que je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur.
Dans un instant, nous allons aller plus loin dans la personnalité de Thierry Paulin avec mes invités, donc avec Agnès Grossman, dans un tout petit instant, le temps d'une pause, et avec aussi le docteur Bornstein et maître Michel Arnold.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Retour aujourd'hui sur l'Odyssée sanglante de Thierry Paulin, et puis on parlera aussi de Jean-Thierry Mathurin, son complice dans un instant, puisque celle qui a été son avocate à l'époque de Jean-Thierry Mathurin est avec nous, maître Michel Arnold. Nous allons là continuer à tenter de cerner la personnalité de Paulin avec le docteur Bornstein, mais juste avant, avec un document RTL, c'est le portrait que dressait de Thierry Paulin quelques jours après son arrestation. C'était le 6 décembre 1987 et c'était Jean-Benoît Vion sur RTL.
Depuis mercredi, depuis que le nom du tueur des vieilles dames est connu, tous ceux qui l'ont fréquenté sont unanimes. Certes, explique-t-il, Paulin était un marginal, mais à aucun moment il ne pouvait imaginer qu'il ait commis autant d'atrocités. Et surtout pas sa mère et ses 5 frères et sœurs. L'une d'elles, d'ailleurs, a dû être hospitalisée lorsqu'elle a appris que son frère était l'auteur de tous ces meurtres. Paulin, durant sa petite enfance, a été tiraillé entre sa mère, son père et sa grand-mère, entre la Martinique, Toulouse et Nanterre. Ses proches expliquent que toute sa vie, Thierry Paulin fut un être imprévisible. Parfois, il était charmant, affectueux, généreux. Le lendemain, il était violent, brutal, insupportable. À l'âge de 10 ans, sans aucune raison, il a violemment frappé l'une de ses sœurs. Le lendemain, il a fait la cuisine et la vaisselle à la maison et offert un cadeau à tous les membres de la famille. Ce n'était pas pour se faire pardonner de ses gestes de la veille, il les avait déjà totalement oubliés. Plus récemment, en 84, il est allé voir sa mère. C'était après la série de 9 meurtres dans le 18e arrondissement. Il lui a demandé de l'argent, elle n'a pas pu lui en donner. Il s'est mis en colère, l'a insulté, menacé de la frapper. Une semaine plus tard, sans aucune raison, il est venu lui rendre visite avec des fleurs. Ce jour-là, il fut tendre et affectueux. Mais il ne faut pas oublier que Paulin est un monstre froid et un monstre lâche. N'a-t-il pas avoué aux policiers la semaine dernière qu'il n'insistait pas lorsqu'une vieille dame qu'il agressait et torturait se débattait un peu trop ?
Tendre, affectueux, froid, lâche, et très contradictoire, docteur Bornstein. Quand un psychiatre rencontre quelqu'un qui est donc à l'époque voulait rencontrer l'auteur présumé de tous ces meurtres, enfin en dehors du vocabulaire, des précautions de vocabulaire, on sait que c'est lui, quoi. C'est pas un interrogatoire de police que mène le psychiatre. Comment ça se passe ?
Non, j'étais avec mon ami, hélas disparu, docteur Lormont, et on l'a vu à Fleury-Mérogis. Et il était superbe, lointain, distant, froid, niant tout en bloc, c'est pas moi.
Non, c'est pas moi.
Comme si, vraiment, c'était une erreur judiciaire et qu'on était là d'une manière irraisonnée et qu'on devait le laisser tranquille. Mmh. Il était tout à sa révolte, en quelque sorte, de grand seigneur.
Et vous, qu'est-ce qu'on vous demande en tant qu'expert ? C'est essayer de décrypter cette personnalité pour essayer de comprendre comment il est passé à l'acte.
On demande surtout de savoir s'il est responsable de ses actes.
D'accord. Ça, c'est ce que la justice veut savoir.
D'une manière sous-jacente, une psychose aiguë, évolutive ou fixée, et qui serait à l'origine d'une dissociation de la personnalité ou autre. Mmh. En fait, rien de tout cela. Mmh. C'est un individu d'intelligence supérieure, froid, calculateur et tout à fait maître de lui. Alors, évidemment, il va biaiser sans arrêt, rien reconnaître. Mmh.
Mais pour essayer de répondre aux questions, à la question dont vous êtes venu chercher une réponse, puisque c'est votre travail, ça se passe en parlant plutôt de l'enfance ou plutôt de ce qui vient de se passer ou plutôt...
Plutôt de l'enfance, on essaie de recueillir l'ensemble des données socio-biographiques et professionnelles et de cerner l'homme dans sa relation avec le monde entier, l'école, l'armée, la famille.
Mais vous revenez à la charge sur le fait qu'il a tué, ou ça c'est quelque
chose qui serait évacué ? Bien entendu, on revient d'une manière très douce et on essaie de ne pas le bloquer.
Oui.
Mais le premier entretien sera relativement court, puisque c'est une fin de non-recevoir, de ne pas participer à l'entretien.
Mais il accepte de vous revoir à nouveau. Voilà.
Il accepte de nous revoir, et puis en parallèle, alors, au début il est dans une santé resplendissante, apparente, mais enfin il est porteur du sida, qui va développer une maladie nerveuse très grave, Le conduira est hospitalisé à l'hôpital Bichat où il mourra dans des conditions assez dramatiques.
Oui, mais oui, pardon,
tout seul, effectivement.
Mais vous n'avez pas percé le mystère.
Non. Quinca, il n'a donné la clé.
Vous avez rencontré beaucoup de criminels pourtant dans votre carrière.
Très grand nombre, effectivement.
Oui. Alors pourquoi il y a ce déni c'est trop dur à affronter.
Devant nous, il ne reconnaît pas. Il a avoué. Nous avons l'ensemble du dossier. Mais devant nous, il est étranger à toutes les affaires qu'on lui impute. Ouais. Son système de défense qui vaut ce qu'il vaut.
Alors, là, j'aimerais bien qu'on commence à parler de Mathurin avec vous, Maître Michel Arnold, puisque il a été dénoncé, Mathurin, par
Thierry Paulin.
Par Paulin. Ouais. Quand, à un moment, dans une scène très particulière, on a parlé hors micro, mais pas au micro, vous le racontez dans votre livre, Agnès Grossman aussi.
Oui, un des policiers qui a fait l'enquête et qui avait trouvé cette bouteille de desktop qu'on avait fait boire à une vieille dame, ce qui l'avait fait mourir dans des souffrances atroces, c'était horrifié. Et c'était promis le jour où il aurait un suspect en face de lui de sortir la bouteille de desktop pour voir le regard. Oui. Et ça n'a pas loupé. Il a sorti la bouteille de desktop. Il y avait Thierry Paulin en face qui l'a regardé avec un sursaut et qui a dit : ça, c'est pas moi. Voilà, ça a été ça. Et donc, du coup, il a bien fallu qu'il explique.
Qui c'était. Voilà. Et il a admis ça.
C'est exact.
Jean-Thierry Mathurin ?
Jamais. 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 Il a toujours dit que son rôle s'était limité à accompagner Thierry Paulin, à suivre effectivement les vieilles dames, à refermer la porte, parce qu'une fois qu'elles ouvraient la porte pour rentrer dans leur domicile, en fait, immédiatement Thierry Paulin était derrière, on la poussait à l'intérieur, il refermait la porte. Mm-hmm. Et là, ils avaient malheureusement tout le temps pour accomplir leur terrible.
Mais lui, il dit c'est Paulin qui a fait le principal, c'est pour minimiser sa peine éventuelle, ou parce que vous dites que la grande différence entre les deux, en tout cas, c'est que lui, il admet j'étais là, oui j'étais bien avec lui, il y a eu ses morts, et je regrette finalement.
Oui, je regrette. Ouais. J'étais là pour fouiller, pour chercher de l'argent. J'étais là pour essayer de trouver absolument quelque chose. Nous étions lui et moi sous l'emprise de médicaments divers, substances diverses.
Enfin, il n'avait pas perdu totalement la mémoire. Il savait qu'à chaque fois, ça allait déboucher sur un meurtre.
Absolument. Et on parlait tout à l'heure justement de la fascination. Mais je crois que c'est très important. Je pense que Thierry Paulin exerçait sur Jean-Thierry Mathurin une véritable fascination. Jean-Thierry Mathurin a rencontré Thierry Paulin justement dans cet univers de la nuit, dans cet univers du paradis latin, où ils étaient tous les deux serveurs, mais où tous les deux, en même temps, quand ils le pouvaient, ils dansaient, ils essayaient de s'introduire au maximum dans ce milieu de la nuit. Et pour Jean-Thierry Mathurin, qui lui aussi est quelqu'un qui manquait cruellement d'amour, d'affection, qui a également connu une enfance terrible, extrêmement difficile, d'enfants battus, d'enfants dont on a abusé même sexuellement, eh bien, il a cru trouver en Thierry Paulin un maître, quelqu'un, un guide. Et il était totalement sous son emprise et sa domination.
Mais cette fascination s'exerçait sur tout le monde. Quand il tenait table ouverte, il y avait 30, 40 convives. De tout Paris presque était
absolument
là.
Absolument. Mais exactement, les fêtes du tour-tour étaient quelque chose. Et véritablement, Jean-Thierry Mathurin était fasciné. Et puis malheureusement, au fil du temps, les choses vont se dégrader.
Alors on va faire une pause et on va parler avec Agnès Grossman et avec vous tous, parce qu'elle en parle beaucoup dans son livre, et c'est un incontournable de cette affaire sur l'énorme polémique qui est née après l'arrestation, puisque les policiers se sont aperçus qu'ils auraient pu arrêter cet homme beaucoup plus tôt. On en parle dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Alors on était en train de parce qu'il y a deux émissions, celle que vous entendez, celle qui continue pendant les pauses. On était justement en train de parler entre nous de, il fallait remettre, vous me disiez ça, Michel Arnold, les choses dans leur contexte. C'est-à-dire à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, on ne pouvait pas compter sur l'ADN.
Non, du tout. Hein. Non, les policiers ont très vite compris qu'ils avaient affaire à des toxicomanes et ils n'ont pas réalisé que lorsque les crimes s'arrêtaient, ben c'était tout simplement parce qu'il y en avait un des deux qui était en prison. Voilà. Mmh. Et on le sait bien sûr maintenant avec le recul. Mmh. On se dit quel dommage. Si simplement ils étaient allés à Fresnes, si simplement ils avaient pu comparer.
Mais alors, la polémique, elle va naître du fait que les policiers vont s'apercevoir effectivement qu'on a déjà arrêté dans le passé Thierry Paulin, qu'on avait relevé ses empreintes, mais c'était à Toulouse, pas à Paris. Alors, avant d'en parler avec Agnès Grospin, on va écouter ce qu'on disait sur l'antenne d'RTL quand la chose a été rendue publique. Jean-Benoît Vion qui suivait l'affaire pour notre station.
En 1982, Thierry Paulin a été arrêté pour vol à Toulouse. Il a été gardé à vue, il a été condamné et il est allé en prison. Et bien sûr, comme tous les détenus de ce genre, on lui a pris à plusieurs reprises ses empreintes digitales. Mais ces empreintes ont disparu dans les méandres de l'administration policière et judiciaire. Elles n'ont jamais été versées au fichier central, cet endroit à la préfecture de police de Paris où toutes les empreintes des suspects sont réunies. En novembre 84, les policiers ont retrouvé chez cette vieille dame assassinée la même empreinte. Ils ont bien sûr consulté le fichier. Ils ont effectué plus de 150 000 contrôles et bien sûr ils n'ont rien trouvé puisque celle de Paulin s'était égarée. On aurait pu arrêter Paulin si on les avait retrouvés en décembre 84. Et ce n'est pas tout. Le tueur des vieilles dames a été interpellé en août 86 à Alfortville dans le Val-de-Marne pour une affaire d'agression. Il a été relâché deux jours plus tard, mais les policiers ont tout simplement oublié de prendre ses fameuses empreintes. Ce qui est incroyable, c'est que Paulin a été confondu mardi soir en moins de 5 minutes. Avec une seule trace, les enquêteurs ont pu lui attribuer déjà 7 meurtres. Alors hier soir, Thierry Paulin a été inculpé d'assassinat pour 19 meurtres. Il en a pourtant avoué 21, mais le juge a préféré rester prudent pour deux assassinats. Les précisions qu'il a données aux policiers n'étaient pas assez convaincantes. Paulin est désormais en prison, il est en quartier d'isolement, car les autres détenus en prison n'aiment pas beaucoup les assassins de personnes âgées ou les assassins d'enfants. Quant à son complice Jean-Thierry Mathurin, il a été inculpé, il a participé à 9 assassinats en 84 dans le 18e arrondissement. Lui non plus n'a aucune notion du bien et du mal. Hier soir, en arrivant dans le bureau du juge, il a dit « Comment peut-on faire, monsieur le juge, pour changer de nom ? Cela me permettra de trouver du travail plus rapidement. »
On reviendra sur la personnalité de Mathurin dans un instant avec vous. Mais d'abord, Agnès Grospin, on peut dire que, vu du côté des enquêteurs et de la police criminelle, il y a un avant et un après l'affaire Paulin, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, si les fichiers avaient été croisés, on aurait pu l'arrêter beaucoup plus tôt. Et il y avait ces empreintes, mais voilà, en fait, c'était chaque fois du ponctuel.
Oui. Donc, finalement, c'est tout ça a incité, disons, la hiérarchie policière et le ministre de l'Intérieur de l'époque. Hein. Je crois que c'était Pierre Joxe, si... Je ne m'abuse.
Oui, je crois que c'est Pierre Joxe.
Quelques temps plus tard, a demandé vraiment une mise à plat de la police scientifique en France, quoi, en fait. Hein.
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette affaire? Puisque je citais tout à l'heure votre livre, le titre de ce livre, L'enfance des criminels. Vous avez raconté son enfance de Paulin parmi beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, celle-là, pour vous?
C'est un déraciné. Il n'a pas été battu. Il a juste été pas aimé, pas investi. Il n'est jamais entouré vraiment. D'ailleurs, il passera après son temps dans la nuit à chercher un entourage et il est malheureux d'ailleurs, il le dit que sa vie est une dépression et à la fin quand il va mourir, ça l'embête quand même hein. Dit mais de toute façon je me suis un peu familiarisé avec la mort et puis ça va être presque une libération, qu'est-ce que c'est tragique la vie. Il n'a pas été aimé, il n'a pas eu vraiment de joie dans l'enfance, il a été homosexuel et ça a beaucoup perturbé sa famille, notamment il aimait beaucoup se travestir, il voulait d'ailleurs monter une boîte de travestis
et il avait fait un témoignage qui est arrivé tout à l'heure d'une personne qui a été sa voisine à Paris entre 1984 et 1988, c'est-à-dire à l'époque où il tuait, où les meurtres avaient lieu. Elle dit, mais on le connaissait dans le quartier, on avait peur de lui, moi il m'avait cambriolé, on le savait, et on le croisait, dit-elle, là, je suis en train de vous lire son témoignage qui est arrivé au 3210, on le croisait à la boulangerie, habillé mi-homme, mi-femme, on baissait le regard quand on le croisait, il faisait peur.
Oui, il aimait impressionner de toute façon, de toutes les façons. Et il avait fait un spectacle de travestie dont il était très fier. Il avait invité sa mère pour qu'elle l'admire, si je puis dire, dans toute sa gloire. Et en fait, sa mère est venue et elle est partie en pleurant. Et comme quoi, il préjugeait mal des réactions de sa mère. Non, mais écoutez, c'est vraiment une triste vie. C'est une vie de dérive. Alors que c'est effectivement quelqu'un qui avait beaucoup de capacités, sans doute. Mais il n'était pas, encore une fois, moi je dis toujours, le logiciel affectif n'était pas installé. Et il n'avait pas de sentiments et pas de... La seule personne qu'il a aimé, c'est Mathurin.
Docteur Bernstein, moi j'ai l'idée fixe toujours. Ouais. Hein, je poursuis mon chemin. On cherche le mystère de ce passage à l'acte. C'est de l'ordre... que représente le crime dans la vie de ce type.
Donc ce sujet est un sujet abandonnique, d'une part. Il a été soumis à des carences affectives et éducatives. Il y a une mauvaise image de la femme et de la femme âgée, donc peut-être sa grand-mère paternelle.
Ça peut jouer sur le fait qu'il est sélectionné comme victime principalement des vieilles dames, en dehors du fait que c'était plus facile de tuer des vieilles dames.
C'est plus facile, c'est un fait, mais d'un autre côté, il a cette imago négative de la vieille femme décrépite et qui veut détruire. Il est avec ce copain Jean-Thierry les deux sont perdus, homo, drogués, et ça va créer cette synergie active et quasi insatiable du passage à l'acte.
On peut voler sans tuer.
Oui, mais il y a quelque chose de froid, de pervers.
Et d'indifférence.
D'automatisé, oui. Et il est une espèce de rôle de grand faucheur qui passe comme ça et qui détruit sur son passage.
Oui. Il y a quelque chose qui est très étonnant, je pense que Serge pourra peut-être l'expliquer, c'est que les crimes sont beaucoup plus cruels et sadiques quand il tue avec Jean-Thierry Mathurin.
Oui.
Est-ce parce qu'il c'est parce qu'il veut l'épater ?
Parce qu'il y a une mise en scène.
Oui.
Et une représentation, il faut détruire cette vieille femme décrépite.
A-t-il continué à tuer seul ou non, après l'épisode Mathurin? C'est une question que se sont posées les enquêteurs, vous le confirmez, maître,
dans
le dossier.
Oui. Ah, tout à fait.
Il y a d'autres empreintes qui n'ont jamais été identifiées.
Jamais. Parce que Thierry Paulin n'a pas voulu dénoncer cette personne-là. Ouais. Alors, pardon. Ouais.
Alors, on fait une dernière pause parce que je regarde la pendule parce que on va voir Philippe Bilger au téléphone. Philippe Bilger, l'avocat général que tout le monde connaît, qui s'exprime beaucoup, qui a fait preuve tout au long de sa carrière de beaucoup d'humanité dans ses réquisitions.
Oui.
Et on va lui demander dans un instant comment, face à celui qui était devant la cour d'assises, c'est-à-dire le complice Jean-Thierry Mathurin, comment il a conçu son réquisitoire. Et comment il a évalué la peine qu'il a requis au tribunal.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors on l'a rappelé tout à l'heure, Thierry Paulin est mort en prison, à l'hôpital, mais il était incarcéré. Il est mort du sida en 1989, donc avant le procès qui, lui, a eu lieu en décembre 1991. Et avant de prendre en ligne Philippe Bilger, qui était l'avocat général de ce procès, je voudrais qu'on entende un dernier document RTL qui date du deuxième jour du procès, le 18 décembre 1991. Le procès vient donc de commencer et Philippe Chaffonjon suit les débats pour RTL.
Jean-Thierry Mathurin plonge la tête sous le box, le front dans les mains, car à la barre une femme aux cheveux gris pleure et raconte d'une voix brisée la mort de sa mère, Suzanne Foucault, 89 ans, le 9 octobre 84. Étranglée, puis arrosée d'alcool à brûler sur lequel Thierry Paulin a jeté un briquet, on soupçonne même Paulin d'avoir auparavant torturé la vieille dame avec des bougies allumées sous la plante des pieds. Mathurin répond qu'il n'a rien vu. À chaque question, il s'absente un peu plus de son procès. Quand Paulin a étranglé Anna Pontus, 83 ans, avec des foulards, ça m'a choqué, dit Mathurin. Je suis sorti de l'appartement. Mais ma attitude, lorsqu'on évoque Germaine Petitot, 91 ans, qui survivra 3 jours au calvaire qu'elle a subi, j'ai le regret de vous dire, monsieur le président, qu'elle a crié. Vous savez, dans ces cas-là, on souffre. Mathurin veut faire l'ange, soumis au démon. Paulin était une bête féroce, gémit-il. Je n'avais pas d'autre choix que celui de le suivre. Reste à savoir si le jury sera convaincu par ce système de défense.
Bonjour Philippe Bilger.
Bonjour.
Merci d'avoir pris quelques minutes là pour revenir sur ce procès. Comment on aborde ce genre de procès de votre côté, quoi? Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez commencé à penser à votre réquisition, à vos réquisitions?
Disons que j'étais en face de cette affaire répétitive et monstrueuse dans les mêmes dispositions que celles que j'ai eues en face de tous les procès. D'abord, évidemment, la conscience de la gravité des affaires, une curiosité forte pour l'accuser, une volonté de consoler autant que je le pouvais les familles des victimes, et puis évidemment l'attente de ce qui allait se dérouler durant cette formidable oralité des débats qui est le propre des cours d'assises.
Oui, mais alors par rapport à la personnalité de celui qui est dans le box, puisque c'est le complice, l'autre est mort, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir comment vous cadrez vos réquisitions ?
C'est-à-dire, d'abord, mes réquisitions, je les ai... elles se construisent dans la tête au fil des jours, si vous voulez. Et il était évident rapidement dans ma tête que j'allais demander, en ce qui concerne Mathurin, la réclusion à perpétuité, évidemment celle que j'aurais requise à l'encontre de Paulin, mais je voulais faire une distinction tout de même au niveau de la mesure de sûreté, parce que qu'on le veuille ou non, je crois que Mathurin, dans les crimes qui lui ont été reprochés, était sous l'influence dominante de Paulin.
Je disais tout à l'heure,
ça ne l'exonère pas, bien sûr, mais je voulais que cette petite distinction soit marquée.
Oui, parce qu'il a été condamné, parce que la Cour a suivi vos réquisitions, à la perpétuité, avec une peine de sûreté de 18 ans.
Voilà.
Et il a effectué, Maître Arnold, je reviens à vous, Philippe Bigeard, dans un instant, il a été donc, il a bénéficié d'une liberté conditionnelle après 20 ans de prison, en février 2009.
Oui, madame, le juge des libertés, Vatrelot.
Bon, vous saviez, vous, qu'il allait être condamné à perpétuité?
Oui, je l'avais préparé à cela, tant que l'on peut le faire, c'était mon travail de le faire.
Oui.
Et ensuite, à l'époque, il y avait trois peines de sûreté possibles, 15 ans, 18 ans, 30 ans. Mon but était d'essayer, c'était tout l'objet de la plaidoirie.
Que ce soit
d'arriver.
Pas 30 ans, quoi.
Voilà, c'était ça, l'objectif.
Oui. Comment on plaide pour ça, alors? Parce qu'on ne va pas faire appel aux sentiments du jury devant des faits aussi horribles.
Ah, je pense qu'il y a des choses dans le dossier qu'il fallait absolument dire, notamment la détresse de toutes ces victimes, le fait que la plupart ont été découvertes. Elles aussi, on parlait tout à l'heure de Thierry Paulin qui était abandonné, mais ces personnes âgées, elles étaient aussi abandonnées. Il y a notamment un témoin que j'ai fait venir qui a déclaré, on lui apprend que sa mère vient d'être tuée, et il dit, vous m'apprenez que ma mère réside dans le 18e arrondissement. Je pensais qu'elle était toujours dans le 12e. Ah, je n'ai pas de contact avec elle depuis 20 ans. Il faut savoir qu'il y a certaines personnes âgées que l'on a retrouvées. Pourquoi ? Parce qu'il avait des odeurs terribles. Et
qu'elles vivaient dans l'indifférence générale. Mais
absolument.
Ça n'excuse évidemment rien du côté de l'acte criminel.
Ah, ça n'excuse absolument rien.
Alors,
mais
je
pense que notre société. Je pense que c'est important, parce que je pense que notre société doit aussi comprendre que les bourreaux n'allaient pas avoir plus de clémence que notre société elle-même et que la propre famille de ces vieilles dames qui les avaient abandonnées très souvent.
Oui, pas toutes.
Tout
dit, docteur Bernstein.
Attention, combien ai-je eu, docteur, de parties civiles dans ce procès ? Combien ? J'ai eu 2 parties civiles sur tous ces meurtres. Et je pense que c'est important de le souligner.
Alors que Mathurin comparaissait pour 11 meurtres.
Hein, absolument.
Il avait admis. Philippe Bilger, au cours d'un procès comme celui-ci, vous interrogez, vous parlez avec l'accusé, enfin vous lui posez des questions ?
Je participe au débat lorsque, évidemment, le président me donne la parole pour la partie relevant de l'avocat général, mais ce qui m'a importé, et j'ai été heureux judiciairement de voir que le jury a suivi cette volonté que j'avais formulée dans mes réquisitions de faire une très légère distinction entre Paulin et Mathurin. Je craignais que Mathurin fût embarqué totalement, intégralement, dans ce qui aurait été le sort judiciaire de Paulin s'il avait été présent.
Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous le soir après le verdict, vous dites justice a été rendue.
Oui, à partir du moment évidemment où on peut penser que les parties civiles les familles dévastées ont trouvé une forme de réconfort judiciaire dans ces sanctions, j'allais dire presque inévitables, si vous voulez, mais je ne surestime pas non plus, au regard de telles tragédies, l'incidence judiciaire. Vous voyez, ce sont des dévastations qui dépassent de très loin ce que la justice peut apaiser.
Je vous remercie beaucoup, merci infiniment Philippe Bilger. Je voudrais juste qu'on revienne deux secondes sur ce qu'est devenu Jean-Thierry Mathurin, donc libéré après 20 ans de prison.
Oui.
Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il devient?
Il travaille. Il a été pris en charge par une association au départ. C'est grâce à cela que j'ai pu obtenir sa libération. Il fallait absolument que je puisse construire un dossier et que je puisse démontrer que cette personne, après ses 20 années de détention, pouvait se réinsérer. Et j'ai eu un juge des libertés auquel je rends hommage ici.
Ça veut dire que des psychiatres, puisqu'on a un psychiatre
oui,
là,
absolument.
Je vais lui poser, ça veut dire que des psychiatres, des confrères à vous, ils ont forcément été interrogés par la par
ah oui,
bien sûr, tout à fait.
Est-ce que il y a une dangerosité?
Il a donné des gages justement en ce qui concerne sa réadaptation sociale.
Oui, absolument.
À l'époque, il disait qu'il faisait des cauchemars la nuit, qu'il voyait des vieilles qui voulaient lui parler. Il en fait toujours.
Oui, c'est exact. Il en fait toujours, et je pense qu'il en fera toujours.
Je vous remercie beaucoup. L'émission est terminée. Merci, maître Michel Arnold. Merci, Agnès Grossman. Et je rappelle donc le titre de votre livre qui vient de reparaître au Point Seuil, sous le titre qui était le titre déjà de la première édition, c'est-à-dire L'enfance des criminels. Et merci beaucoup à Serge Bornstein.
S'en prie.
Votre livre, L'assassin des vieilles dames. Et j'ai oublié le nom de la maison d'édition.
C'est les éditions de Paris.
Les éditions de Paris. Voilà, c'est stupide d'oublier un nom aussi simple à retenir. Merci beaucoup. Donc l'émission terminée, on va retrouver Flavie Flamand, puis on parlera un petit peu de lundi rapidement.